BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview sous forme de débat aujourd'hui. On va essayer de comprendre d'abord si ChatGPT menace en effet l'humanité. Vous avez sans doute entendu parler de ces lettres, de ces experts qui disent attention, il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause. On parlera aussi de la perte de la souveraineté numérique de l'Union européenne, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis bien sûr, est-ce qu'il faut interdire ou pas TikTok? Vaste sujet pour mes deux débatteurs. Avec moi David Bavrez, baron alphabétique, business angel basé à Hong Kong, auteur de Chine Europe, le grand tournant, ou encore de Paris, Pékin, Express. Bonsoir, David Bavrez.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, face à vous, à côté de vous. Je crois que vous connaissez, vous êtes croisés dans une expérience en Chine. André Lescrut-Pietri, qui est président de JEDI. JEDI, c'est cette initiative qui essaie justement de booster l'Europe sur l'innovation. Bonsoir, André Lescrut-Pietri.
Bonsoir, Edwige.
Merci d'être avec nous. Vous êtes franco-allemand, c'est intéressant, parce que justement, dans la perte de souveraineté numérique de l'Union européenne, il y a aussi la perte de souveraineté tout court de l'Europe face à la Chine, la souveraineté pour le coup de l'Allemagne sur l'Union européenne. Ça fait beaucoup de sujets. D'abord, je voudrais qu'on commence par ces 1000 experts avec Elon Musk en tête de gondole qui dit attention, il faut mettre l'intelligence artificielle sur pause parce que ça peut menacer l'humanité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je commence par vous, André.
Écoutez, alors que ce soit Musk qui parle du risque, notamment des informations, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. Hein. Quand même, on a quand même quelqu'un qui, en ce moment, est en train d'utiliser Twitter en partie à son utilisation personnelle et pousse certains comptes aujourd'hui de désinformation. Ça, c'est quand même clair. Le fait qu'aujourd'hui, on ait ce sentiment d'accélération, il faut bien imaginer, la version précédente d'intelligence artificielle, GPT-3, c'était 2018. On a ChatGPT dont tout le monde parle, 100 millions d'utilisateurs en deux mois, octobre-novembre 2022. Là, on a la nouvelle version GPT-4, oui. Mars, donc les choses s'accélèrent. Ce qui est clair, c'est déjà que la réglementation, c'est-à-dire on n'y arrivera pas uniquement avec la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation a perdu totalement le pied de l'accélération, point numéro un. Point numéro deux, on se rend compte qu'énormément de tâches aujourd'hui vont être modifiés, c'est-à-dire que ça va avoir un impact majeur, ça va avoir un impact sur les médias, ça va avoir un impact sur les chercheurs, ça va avoir un impact sur en fait
sur
toutes les
sur
évidemment sur l'économie en général. Donc on est vraiment sur une révolution en cours. Alors est-ce qu'il faut dire pause? Vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé dans les grands moments de l'histoire où Galilée par exemple s'est quand même un peu rétracté quand il a dit que la Terre n'était finalement plus Copernic n'était plus la Terre n'était plus au centre de l'univers et que la Terre tournait autour du Soleil. Einstein, qui était un pacifiste convaincu, qui disait quand même sur le nucléaire, il faut absolument que les démocraties poussent là-dessus. Donc dire qu'on va faire pause, c'est quasiment impossible. Par contre, c'est peut-être une opportunité pour les Européens d'éviter d'être complètement perdus. Donc moi, je pense que cette pause, tactiquement, c'est une chance.
C'est une chance pour l'Europe. Oui, parce qu'ils disent que l'intelligence artificielle plus perfectionnée ne devrait être développée que si nous sommes sûrs de leurs effets positifs. Quelle est votre position, David Bavrez, là-dessus?
La technologie, c'est toujours la même chose. Hein. C'est capable du meilleur comme du pire. Donc,
c'est quoi? C'est la rapidité qui est dangereuse? Quelle analyse faites-vous?
C'est que soit vous êtes communiste, soit vous êtes capitaliste. Donc, Peter Thiel vous dit, l'intelligence artificielle, c'est communiste. Parce que c'est la meilleure manière, je vis en Chine, c'est la meilleure manière de normer la pensée. Donc, jusqu'à présent, si vous étiez un État autoritaire, vous pouviez contrôler le contenu qui venait vers moi. Là, vous allez pouvoir contrôler le contenu qui sort de mon cerveau. Donc, c'est le totalitarisme. Et puis, à l'inverse, si vous êtes capitaliste, prenez nous trois. Peut-être que dans un ou deux ans, on n'a plus de raison d'être. Parce que la
machine...
Surtout
nous, journalistes, hein, mais bon, oui.
Oui, non, mais nous trois, notre débat, il n'y aura plus un auditeur.
Oui, écrivain non plus, oui.
Ils diront, le ChatGPT du soir, il est vachement mieux que BFM. Donc, on va être obligé de s'améliorer. Et si je reviens chez vous dans deux ou trois ans, c'est parce qu'on sera meilleur que ChatGPT. Donc, pour moi, c'est un défi personnel d'être meilleur que la machine, et je trouve ça très stimulant. Donc, on est capable du pire comme du meilleur.
Donc, vous dites pause ou pas pause, vous?
Ah, je dis pause.
D'accord, vous dites pause. Ah, d'accord,
oui, parce qu'il faut savoir, non, mais il faut savoir si on devient communiste ou capitaliste.
Ouais, alors, vous qui n'êtes pas communiste, mais enfin, en tout cas, vous vivez en Chine, quelle est la position de la Chine là-dessus? Les Chinois, ils disent quoi, eux?
Les Chinois adorent. Les Chinois adorent parce qu'ils sont avec Peter Thiel en disant l'intelligence artificielle. C'est pour ça que la Chine va être très très bonne en intelligence artificielle. Parce que ça vous permet de normer une pensée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ne citez pas vos sources. Donc si vous mettez de la pensée de Xi Jinping dans la machine, eh bien mon cerveau ne va créer que de la pensée de Xi Jinping. Donc pour le gouvernement, c'est un rêve.
André Le Sopretré, je vous vois assez sceptique.
Alors je suis, je reste un optimiste dans le sens où on voit bien qu'aujourd'hui on ne va pas changer nos habitudes. C'est-à-dire que le rêve de dire sur le climat ou sur la technologie, on va changer la manière dont on voit bien comment on est, les humains fonctionnent. Donc il va falloir trouver des solutions vraiment disruptives et radicalement différentes pour régler les grands problèmes de l'humanité, le climat, l'éducation, etc. Je pense quand même que cette intelligence artificielle aujourd'hui, en tout cas les modèles qui sont développés, sont des modèles, justement les grands modèles de langage, c'est-à-dire des modèles très linéaires. C'est-à-dire on va mettre des milliards de données, aujourd'hui des trillions de données, pour essayer de prédire l'avenir. Ça devrait ressortir en nous ce qui est normalement de meilleur. La vraie clé, ça va être ceux qui vont pouvoir l'utiliser. On a bien vu que les robots n'ont pas remplacé les hommes, ils ont changé. Aujourd'hui, la vraie question, c'est est-ce que l'IA va permettre justement de se dédier aux tâches les plus créatives ? Je crois au contraire qu'un débat comme ça va être très difficile à stimuler sur une intelligence artificielle, sauf si on répète juste ce qu'on a lu dans la demi-heure précédente de l'émission. Mais si cette notion d'esprit critique, qui est en plus quelque chose qui est vraiment très français, très européen, pour nous ça devrait être une chance de se dire comment est-ce qu'on utilise ces grands modèles pour se débarrasser des tâches répétitives, faire des comptes rendus de réunion, connaître, je sais pas, tous les...
C'est pour ça
tous
qu'il sera encore là dans 2-3 ans.
tous les chefs-le ou autres, et se concentrer vraiment sur ce qui fait notre créativité. Et alors, je suis un optimisme quand même sur les Européens, parce que rappelez-vous qu'aujourd'hui, c'est cette diversité qui finalement nous ralentit, hein, disons-le honnêtement. Comment faire pour que ce projet européen, où cette diversité normalement devrait être créatrice, soit extrêmement exprimée? Et ça, c'est vraiment l'objectif.
Juste, on va y arriver, parce que vous avez dit dans une tribune qui a été publiée dans le Journal du Dimanche, vous avez dit c'est l'Europe qui aurait dû inventer ChatGPT. Vous y croyez quand on dit il y a 300 millions d'emplois qui vont être impactés par ChatGPT ou l'intelligence artificielle? David Navrez, est-ce que c'est à ce point-là disruptif, pour reprendre l'expression du Jedi ?
Complètement. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la même société, Microsoft, qui, il y a 50 ans, quand il y avait une crise énergétique, a sauvé le monde en inventant le PC, et qui aujourd'hui vient et invente un nouveau facteur de productivité incroyable. Donc c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 75-80, ceux qui perdaient leur job... c'est des études de la Fed, retrouver un nouveau job à seulement 60% de leur salaire précédent. Il leur fallait 10 ans pour retrouver leur salaire précédent. Donc ça ne va pas être la Fed pour tout le monde. Il faut quand même être objectif. Mais l'humanité, dans l'ensemble, va progresser. C'est l'histoire de la tech.
La vraie conséquence de tout ça, et qu'on ne voit pas venir depuis deux mois, et là je vais être un peu ad hominem, que fait le ministre de l'Éducation nationale ? S'il y a vraiment un sujet... sur lequel en plus il serait un peu plus visible, parce que je pense que 95% de nos auditeurs ne savent pas qui c'est, donc monsieur Papendiaï. Voilà, Papendiaï, c'est un vrai défi pour nos civilisations. C'est un défi pour nos civilisations. C'est comment est-ce que réellement on va se focaliser sur ce qui est humain.
Politique, enfin, nos dirigeants,
et même, ils ont pas pris, et je dirais même dans un contexte où on a été très paramétrique, on a été très technique sur nos réformes. Je fais vraiment cette relation avec la réforme des retraites. C'est finalement quel est l'avenir qu'on donne, quelle est la vision positive. Moi, je crois de moins en moins à cette thèse de il faut protéger les Français. D'abord, on ne les protégera plus par l'accélération qui se passe. Par contre, il faut leur donner une perspective. Et là, j'attends les Kennedy qui, dans les années 60, au début des années 60, après la crise de Cuba, après Spoutnik, etc., ont redonné une perspective à un pays. 7 ans après, ils marchaient sur la Lune.
Ouais. Vous partagez ce sentiment, David Vavreys?
Il faut surtout l'esprit critique. C'est ça, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on va être bombardé, y compris de fake news, parce que c'est là qu'est le danger. Et donc, ce qu'il faut apprendre à la génération qui vient, c'est, face à n'importe quelle information, d'avoir l'esprit critique, de dire « mais ça, c'est un faux, ça, c'est un vrai ». Parce que c'est comme ça qu'on va éviter la manipulation des masses.
Tiens,
c'est ça le grand enjeu.
On va en parler tout de suite, parce qu'eux, ils ont très bien compris comment séduire la tête, l'esprit des jeunes, comment ils s'imprègnent de TikTok. Est-ce qu'il faut interdire TikTok, David Bazrez? Vous parlez en tant que Chinois, d'accord? Dans la répartition des rôles.
Je ne suis pas Chinois. Oublions le côté chinois de TikTok. TikTok, c'est un nouveau langage. C'est-à-dire que c'est
une vidéo... Pour séduire les jeunes.
Une vidéo de 15 à 30 secondes qui séduit les jeunes, parce que nous, on trouve que ça n'a pas d'intérêt, eux trouvent ça fantastique. Ouais. Donc, interdire un nouveau langage, a priori, je suis contre. Mais... Il y a naturellement des conséquences qui sont, il y a un problème de souveraineté des données. Si c'est un moyen de, pour un pays de voler des données dans notre pays, il y a un problème.
Donc Vous pensez que c'est vrai ou pas ? Les Chinois, effectivement, ils aspirent, ils pompent.
Ça, oui, potentiellement, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'aux États-Unis, vous prenez la tranche 15-25 ans, TikTok est devenu, et je suis désolé pour vous, la première source d'information.
Oui.
Absolument. Donc, on ne peut pas laisser TikTok. Vous avez, je n'ai pas vu votre contrat de travail, mais vous avez une clause de déontologie, j'imagine. Si vous racontez n'importe quoi, vous êtes licencié.
Oui.
Bon, TikTok, il faut que TikTok soit responsable de tout le contenu qui est sur son réseau. Donc, il faut une curation de contenu et que TikTok soit responsable, y compris financièrement, de fausses informations qui répandent.
Donc, c'est normal, les Américains donc interdisent TikTok. En France, les dirigeants, les membres du gouvernement n'ont plus le droit d'être sur TikTok. Je posais hier la question à la ministre Olivia Grégoire, elle ne savait plus très bien, mais bon.
Alors, ça c'est plus André qui, sur le plan technique, technologique, peut dire qu'il y a les risques de vol de données. Là, je ne suis pas compétent.
Et puis aussi sociétalement.
Oui, je rappelle aujourd'hui que 5 ans, parmi la tranche 20-30 ans, donc les millennials, aujourd'hui, plus de 50% forment... Heureusement, ils ont moins de 10 ans. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas de portable. D'accord. Et ça va rester encore comme ça pendant, j'espère, le plus longtemps possible. Mmh. Mais la tranche 20-30 ans, aujourd'hui, dit qu'elle compose ses idées politiques à plus de 50% sur les réseaux sociaux et dont TikTok. D'abord, il ne faut pas être naïf. Le fait que ce soit les Américains qui sonnent la charge contre TikTok, clairement... est une manière aussi pour eux de défendre leur propre grande plateforme. Vraiment, mettons-nous aussi dans un contexte européen là-dessus. Le fait que par rapport aux politiques, on n'ait toujours pas pris la mesure à quel point aujourd'hui, finalement, les sondages... Enfin, rappelez-vous les affaires des sondages de l'Élysée. J'ai l'impression que ces gens-là vivent au XXe siècle. C'est plus comme ça qu'on sent le pouls. Donc, deuxième grande inquiétude, quand on voit un Xi Jinping qui, aujourd'hui, on dit, il est aussi puissant peut-être que Mao, mais il l'est beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il sent le pouls en temps réel. Le fameux tournant à 180 degrés qu'ils ont pris il y a 3 mois sur la politique zéro Covid, ou quasiment du jour au lendemain, ils ont fait l'inverse, sentant qu'il y avait des manifestations un peu. Ça, c'est clairement, aujourd'hui, un outil de manipulation politique absolument incroyable. Et troisième chose, ne pas oublier qu'aujourd'hui, cette manipulation cognitive dont parlait David Bahrez à l'instant, effectivement, les données qui sont recueillies sur ce que vous aimez, ce que vous likez, ce que vous partagez, elles sont potentiellement extrêmement intéressantes pour comprendre votre psychologie, votre manière de travailler, etc.
N'interdisez pas une nouvelle forme de médias sous couleur qu'elle est chinoise. Donc,
la question peut se poser, pardon.
TikTok est une drogue absolument horrible et Facebook est merveilleux. Ça, j'achète pas l'argument.
Alibaba ?
Alors, c'est les Alibaba, parce que Alibaba a fait six petits. Il
est coupé en tranches, en rondelles.
Voilà. Ceci ce n'est, il y en a.
Quand même, est-ce que vous regardez de la même manière une application, on peut dire ça comme ça, qui est chinoise ou américaine ou européenne? Est-ce que c'est la même chose? David, vous dites oui?
Vos données sont exploitées de la même manière par des Américains ou des Chinois. Ça, c'est justement, on a laissé faire jusqu'à présent les Américains parce qu'on disait que ce sont nos amis. Et là, comme c'est un Chinois. C'est ça la beauté, c'est que les Chinois, comme ils arrivent, posent enfin le problème.
Oui, je crois qu'il y a quand même une grande différence. Mais vous avez raison dans le fait qu'on n'a pas vraiment tiré la conséquence de l'affaire Cambridge Analytica, donc le fameux premier scandale de Facebook. Le fait qu'aujourd'hui, Twitter, je reviens sur Elon Musk, finalement soit contrôlé et soit en plus redressé, semble-t-il, enfin, est en voie de redressement par quelqu'un qui clairement a des visions qui ne sont pas totalement démocratique, en tout cas pas surtout, pose question. On reste quand même dans un état de droit jusqu'à nouvel ordre. D'ailleurs, je pense qu'on a tout intérêt avec TikTok à dire que le vrai danger n'est pas la Chine, qui est une civilisation, mais c'est le Parti communiste chinois. Et là, pour le coup, je fais une différence. C'est-à-dire, entre des actionnaires américains où il y a quand même encore un certain contexte où il y a une certaine... où on doit rendre des comptes. Enfin, rappelez-vous des auditions de Mark Zuckerberg devant le Sénat, où il faisait quand même un petit peu petit garçon, et le Parti communiste qui n'a de compte à rendre à personne et qui est de plus en plus centralisé en temps et très idéologique, qui n'est plus la Chine pragmatique qu'on connaissait.
Vous avez aussi habité en Chine et investi en Chine, et que vous, David, vous allez nous dire dans un instant si vous partagez. Vous êtes comme André ou pas?
Non, on est très différents.
Oui, mais ce que je veux dire, vous faites la même analyse quand il dit c'est pas la Chine qui est une civilisation qu'il faut pointer du doigt, c'est le Parti communiste.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas une Chine, mais il y a deux Chines. Ouais. Il y a la Chine, il y a le gouvernement chinois et il y a le peuple chinois. Et il faut absolument qu'on travaille, qu'on les connaisse, que la Chine nous connaît, nous ne faisons pas le travail de connaître la Chine.
Et en pointant du doigt la Chine, d'ailleurs, on donne des armes au Parti communiste pour attiser le nationalisme en disant, voyez, le reste du monde essaye de nous brider.
Est-ce qu'il y a une volonté chinoise, je veux dire, de prendre le leadership? Alors, on le voit bien sur l'état d'autres choses, mais sur le plan du numérique, ou pas? L'intelligence artificielle, est-ce qu'ils sont ChatGPT, est-ce qu'ils auraient pu l'inventer, est-ce qu'ils vont inventer le ChatGPT numéro 5 version chinoise, quoi?
Bien sûr, non, mais ils travaillent sur l'intelligence artificielle. Comme je vous dis, ils sont extrêmement motivés parce qu'il y a un gain politique évident. À l'inverse, si vous parlez à un entrepreneur chinois, il vous dira que la souveraineté, qu'on présente toujours comme quelque chose de très positif chez nous, ben, si vous êtes un entrepreneur chinois, vous rêvez qu'il n'y ait pas une souveraineté étatique chinoise. Ouais. Parce qu'il y a un gouvernement qui ne comprend rien à la technologie quand il dit « je veux 10 000 petits géants ». Alors qu'on sait très bien que... Donc c'est le raisonnement derrière Alibaba, ceci ce n'est en 6 parties, c'est que je ne veux pas un contre-pouvoir qui naisse de la technologie entre des mains privées. Donc... tout ça fait que le contrôle du parti va empêcher à l'avenir l'émergence de
géants chinois.
Exactement.
Oui. Donc en fait, c'est peut-être ça qui va nous sauver.
Ben voilà.
Du reste, hein.
Oui, enfin, je pense quand même qu'on a encore, on a des visions en fait des empires qui sont très différentes. On a ce que dans les générations précédentes on appelait l'impérialisme américain, qui souvent se manifeste par des volontés d'interventionnisme dans d'autres pays. Oui. Je pense qu'aujourd'hui la Chine est clairement, le Parti communiste justement essaye de projeter son modèle, veut proposer un contre-modèle, et je pense que pour les démocraties c'est un danger mortel. Et nous qui essayons...
Alors justement, le contre-modèle européen, non mais ça fait lien. C'est quoi le... Vous êtes censé bosser dessus, je vous signale là quand même, André Le Scrupietri, puisque vous êtes président du JEDI.
On y est jour et nuit.
Jour et nuit, mais on attend les résultats. Vous-même, vous avez écrit en disant c'est inacceptable que ce ne soit pas l'Europe qui ait lancé ChatGPT.
Oui,
et de toute manière, on s'y prend. Je vais résumer. On s'y prend comme des manches, on saupoudre partout. Les politiques sont pas au niveau. Enfin, ça, c'est vous qui le dites. Enfin, les termes mieux choisis, mais grosso modo, pourquoi est-ce que l'Europe n'y arrive pas?
D'abord parce qu'on a une vision très défensive. Et je pense que l'Ukraine nous montre bien, dans un autre contexte, qu'on ne gagne pas une guerre, parce qu'on est quand même dans une guerre de modèle à la défensive. Et aujourd'hui, on voit bien que la réglementation, c'est pas qu'il n'en faille pas, mais c'est pas elle qui va nous donner les victoires. La réglementation, elle met 3 ans, 4 ans, souvent elle est dépassée. Là, on parle de générations de technologies qui avancent toutes les semaines tous les mois. Donc il faut avoir ce leadership technologique. Mais pour l'avoir, ça veut dire qu'il faut véritablement être capable de prendre des décisions extrêmement difficile par rapport à ces structures existantes. Aujourd'hui, effectivement, ni le président de la République, ni la présidente de la Commission européenne, ni le chancelier allemand n'ont le courage d'avouer que on a dépensé depuis 35 ans 240 milliards d'euros en recherche et développement au niveau européen pour zéro position de leadership technologique. La plus grande société européenne, elle a été inventée il y a 50 ans, c'est SAP, et très franchement, avec beaucoup de respect pour SAP, c'est pas ceux qui sont aujourd'hui les plus disruptifs. Donc il faut avoir le courage de mettre un tout petit peu d'argent et un petit peu de moyens. Mais aujourd'hui, on dit qu'on veut le faire, et on continue à faire des appels à projets gérés par des agences d'État. Ça ne marchera pas comme ça.
David Bavrez, vous avez le sentiment, vous aussi, qu'au niveau européen, on a du mal. On le voit dans d'autres domaines, hein. On le voit aussi bien sur la question des voitures thermiques, on le voit au niveau aussi de l'IRA, la difficulté qu'on a à sortir d'une politique qui est menée par la régulation uniquement, et non pas par l'invention, l'innovation.
Oui, on manque de leadership, donc on n'a pas de vision.
Mais pourquoi on n'a pas de vision ?
Ben parce qu'on n'a pas de leadership.
Vous qui êtes un peu à l'extérieur, justement.
Ben, le président Xi dit en Chine, 2049, on sera numéro un mondial. Bon, c'est sans doute, ils n'y arriveront sans doute jamais, mais peu importe. Vous fédérez 1,4 milliard de gens tous les matins et qui disent, on va travailler, on va accepter des sacrifices parce qu'on a une vision, on sait vers quoi on va. Et ça, en Europe, on l'a pas. Et pourquoi ? Bah parce qu'on n'a pas, on n'a pas de leader. À la une vision, elle doit être incarnée par une personne, un leader. Et aujourd'hui, vous voyez que si c'était une société, si l'Europe était une société, eh ben, il n'y aurait ni président du conseil d'administration, ni président du directoire. Ça ne peut pas marcher.
Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on voit très bien, du reste, les services secrets sont un peu menacés, pas menacés, mais préoccupés de ça. Il y a de nombreuses sociétés françaises qui sont rachetées par des entreprises chinoises.
Non.
Est-ce qu'il y a une vraie menace ? Non, vous dites non.
De moins en moins.
Non, les investissements chinois...
De moins en moins, mais ça a été le cas. Hein.
Oui, on a été d'une naïveté terrifiante.
Les investissements chinois représentent moins de 5% des investissements étrangers, aussi bien en France qu'en Europe. Donc, par rapport au poids économique de la Chine dans le monde, les investissements directs... C'est pas comme ça que les Chinois ont... Non, ce qu'ils ont... Ils nous ont pas payé. Ils nous ont pris notre technologie.
Pompé, ça s'appelle.
Oui, mais ils nous ont pas payé.
Oui. Mais ils ont racheté quand même pas mal de boîtes au lendemain de la crise. Enfin, la crise de sanité, la crise Covid.
Peut-être un tout petit point un petit peu différent. D'abord, je crois pas aux hommes providentiels, aux hommes et aux femmes différenciés. Ouais. Parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui tellement complexe qu'il faut avoir justement une grande diversité.
On avait des Elon Musk, des Jeff Bezos, ça avait tous les défauts qu'ils ont.
Non, par contre, la chose qui est effectivement essentielle, c'est où sont les grands sujets où on peut amener toute la société. Et je suis surpris que sur le sujet du climat, qui pourrait être réellement une vision qui ramène les... et où il y a des milliers de choses à faire, des petites innovations dans tous les sens à faire, ça puisse pas être un... Non, on est aujourd'hui devenu une société rabougrie. À nouveau, je pense qu'il faut tordre le cou à cette vision de il faut protéger les Français. Excusez-moi, mais c'est aujourd'hui le leitmotiv du gouvernement. On ne motive personne, ni les élites... ni la population en général qui ont envie d'avoir un espoir. Donc il faut se fixer cet objectif et cet objectif en plus ça arrivera probablement à faire de nos différences une vraie force. Aujourd'hui c'est pas le cas. On ne s'entend même pas entre les Français et les Allemands.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous qui revenez d'Allemagne, vous le savez bien. David Bavrez, peut-être le mot de la fin pour vous. Est-ce que vous pensez que la souveraineté européenne ça a vraiment un sens?
Alors pour moi,
ça n'a plus de sens, pas du tout.
Moi, ça a plus de sens. Moi, je vis dans un monde interdépendant. Je vis pas dans un monde souverain. Je ne connais pas une chaîne de valeur intelligente, complexe, intéressante où une personne soit souveraine. Donc c'est, on revient. Mais je crois pas à l'indépendance. Je crois à l'interdépendance. Donc il faut étudier les forces et faiblesses de tous nos concurrents et jouer sur leurs faiblesses de manière à maximiser nos forces.
Pas sûr que vous ayez convaincu André Le Scrupietri qui lui se bat pour la souveraineté européenne, mais en même temps on voit bien effectivement ce besoin d'interdépendance, mais peut-être sans être trop naïf, c'est peut-être aussi notre défaut. Merci messieurs, on aurait pu continuer encore pendant une demi-heure sur cette question, mais à mon avis le dossier est loin d'être clos. Travaillez bien André Le Scrupietri avec le Jedi pour essayer de trouver l'innovation qui doit aussi sauver l'industrie française et européenne. Ça, c'est encore un autre débat.
On reviendra sur le sujet décarbonation de l'industrie.
Oui, absolument. Tout à fait, mais grâce à l'innovation, toujours. Merci. Voilà, c'est la fin de la grande interview. On se retrouve, bien sûr. Demain, tout de suite, à mon avis, le débat va se prolonger avec Tech & Co. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.